Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
C'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux. Au sommaire aujourd'hui, les tourments shakespeariens de Theresa May.
Eh oui, il en va du Brexit un peu comme de ces grands objets de Chateaubriand. Un accord avec l'Union européenne et une majorité conservatrice prête à exploser au Royaume-Uni. C'est le résultat provisoire des négociations entre Theresa May et les 27 à Bruxelles mardi. Reste à s'entendre entre Britanniques. Alors est-ce que c'est quitte ou double ? Bonjour Pauline Schnapper.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone avec nous, professeur de civilisation britannique à l'université Paris 3, auteur de Royaume-Uni doit-il sortir de l'Union européenne à la documentation française en 2014. Alors le choix est clair, nous pouvons choisir de partir sans accord, risquer qu'il n'y ait pas de Brexit du tout ou choisir de nous unir et soutenir le meilleur accord que nous pouvions négocier, cet accord. C'est ce qu'a dit Theresa May hier aux communes. Autrement dit, elle place son parti au pied du mur cette fois.
Oui, c'est ça. Elle donne un choix réel ou supposé entre l'accord qu'elle a trouvé, qui consiste en gros à rester dans l'union douanière pendant un certain nombre d'années, en tout cas, de façon à ce qu'il n'y ait pas de frontière entre l'Irlande du Nord et du Sud, de frontière européenne, et donc de contrôle. Et elle dit, en gros, elle dit aux partisans de l'Europe, si vous ne votez pas cet accord, il n'y aura pas d'accord et ce sera le chaos. Et elle dit aux Brexiteurs, aux anti-européens les plus acharnés, votez cet accord parce que sinon le risque c'est qu'on ne sorte pas de l'Union européenne, si vous vouliez.
Et de ce point de vue-là, c'est une victoire, si on peut dire, symbolique pour qui Theresa May, qui n'avait rien de toute façon sinon, ou pour l'Union européenne, qui avait sinon, on va dire, la responsabilité d'un Brexit dur.
Je dirais que à première vue, c'est plutôt une victoire pour l'Union européenne parce que c'est quand même Theresa May qui a cédé sur ce point essentiel du maintien dans l'union douanière, alors qu'au départ, elle disait qu'il n'en était pas question. Cela dit, comme rien n'est fait, il faut bien voir que rien n'est joué. Cet accord, pour l'instant, n'a pas de valeur tant qu'il n'est pas ratifié par le Parlement britannique, d'abord, puis par les autres États membres et le Parlement européen. Mais ce que l'on voit pour l'instant se dessiner, a priori, c'est qu'il n'y a pas de majorité au Parlement britannique en faveur de ce voilà. accord. Et il y a une espèce de coalition des antis entre ceux qui trouvent qu'il va déjà trop loin et ceux qui trouvent qu'il ne va pas assez loin dans le maintien proche de l'Union européenne et que le Royaume-Uni va perdre par rapport à la situation présente, par rapport au statu quo.
Et on va reparler des méandres des différents scénarios au Parlement britannique. Juste sur l'accord, c'est l'accord provisoire encore une fois avec l'Union européenne, en quoi est-ce qu'il résout des problèmes fondamentaux ? Vous avez évoqué la question de la frontière avec l'Irlande et du maintien au sein de l'Union douanière, ce fameux backstop qui a été finalement adopté.
Voilà, alors ça permet surtout d'éviter ce backstop, cette solution de repli qui était que l'Irlande du Nord reste dans l'union douanière. Là, c'est tout le Royaume-Uni qui resterait, donc ça évite qu'il y ait une rupture symbolique entre l'Angleterre, l'Écosse et les Pays de Galles d'un côté et l'Irlande du Nord. Il n'y aura pas de frontière au milieu de la mer d'Irlande, donc ça c'était important pour les Nord-Irlandais. Mais en échange, si on peut dire, les Britanniques sont forcés de rester dans cette union douanière alors qu'ils rêvaient de conclure des accords de libre-échange avec des pays tiers. Tant que vous êtes dans l'union douanière européenne, vous n'êtes pas libre de votre politique commerciale pour l'extérieur. Et donc ça, évidemment, c'est inacceptable pour les partisans les plus ardents du grand large, si vous voulez.
Et autrement dit, rien ne sera fait, comme vous l'avez dit, sans ce vote du Parlement, qui devrait conduire aussi à une déclaration commune qui n'a pas eu lieu sur le partenariat futur. Donc, alors, ces chances de ratification, quelles sont-elles ? Il y a 650 députés aux communes, une majorité presque exacte, là, de 315 députés pour les conservateurs, mais elle ne les a pas tous, là, pour valider cet accord,
Thérèse. Ouais. Exactement, elle est loin de les avoir tous. On ne sait pas exactement combien de députés sont prêts à voter contre cet accord au sein du Parti conservateur, mais les estimations vont de 40 à 80. Donc pour quelqu'un qui n'a pas de majorité ou qui dépend des 10 députés unionistes qui par ailleurs eux aussi rejettent cet accord, on voit bien que pour l'instant elle est très très loin du compte. Donc elle a 3-4 semaines devant elle pour essayer de convaincre un certain nombre de députés que c'est quand même mieux que rien ou que c'est ça ou le chaos, hein, selon les cas. Mais ça paraît extrêmement difficile. Au sein du Parti conservateur, vous avez donc cette minorité, mais quand même puissante, qui est très très remontée, hein, derrière des gens comme Jacob Rees-Mogg. Côté travailliste, on rejette aussi complètement cet accord, à quelques exceptions près. Il y aura quelques députés pro-Leave du Parti travailliste qui risquent de voter, de penser quand même que c'est la moins mauvaise solution. Mais tout ça, a priori, ne fait pas une majorité. Donc, en tout cas, pour l'instant, il faut toujours rester prudent, parce qu'il y a eu tellement de retournements depuis 2 ans et demi que tout peut arriver, mais pour l'instant, on voit mal comment Theresa May pourrait faire ratifier cet accord.
Oui, et même du côté travailliste, est-ce que c'est un peu la ligne qu'énonçait Jeremy Corbyn, ou la perception plutôt de la situation? Le Parlement n'acceptera pas un faux choix, dit-il, entre ce mauvais accord et l'absence d'accord. Cette idée de faux choix, c'est un peu l'idée qui se généralise parmi tous les députés, quels qu'ils soient?
Oui, c'est ça, c'est cette idée dont on parlait tout à l'heure, ouais. Theresa May essaye d'enfermer les députés en général dans ce choix entre c'est ça ou le chaos. Or, les travaillistes en particulier, pas forcément Jeremy Corbyn lui-même, mais enfin la grande partie des travaillistes disent mais non, il y a d'autres choix. Il y a soit un autre accord possible, par exemple de rester totalement dans le marché unique, soit il y a toujours l'option d'un second référendum que beaucoup de travaillistes souhaiteraient.
Ouais, tout le monde un peu pris au piège du côté gouvernemental. Alors, quel impact ça a, et puis comment éviter là cette hémorragie gouvernementale? Il y a encore eu 4 ministres qui ont démissionné donc hier. Ça fait, je crois, 18 en tout en un an. Ça a un impact réel, parce que c'est vrai que c'est des démissions qui sont très policées, hein, par rapport au climat du Parlement, faut le dire.
Oui, il y a eu donc encore plusieurs démissions hier, dont une, la plus importante, je dirais, est celle du ministre en charge du Brexit. Ça fait quand même
Dominic Raab.
Ouais. Voilà, Dominic Raab a démissionné. Il y avait eu David Davis avant lui, avant l'été. Donc, ce sont des démissions lourdes. Il est clair que Theresa May est en position très très faible. Ce qui l'a sauvé jusqu'à présent et qui pourrait peut-être continuer à la maintenir en vie politiquement, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas de personnalité qui s'impose comme pouvant rencontrer un certain consensus au sein du Parti conservateur. Le parti est tellement divisé qu'il y a unanimité pour dire qu'on ne veut plus de Theresa May, mais il n'y a absolument pas de consensus sur qui on pourrait mettre à sa place et pour faire quoi.
Elle
profite de cette situation et finalement ça pourrait durer.
Ce qui veut dire que cette motion de défiance dont il était question parmi certains conservateurs, là il y en avait 48 qui étaient d'accord, elle a peu de chances de passer finalement. Je crois qu'il faut la majorité.
Encore une fois, je suis très très prudente, mais il y aura probablement une motion de défiance, mais il n'est pas certain du tout qu'il y ait une majorité, soit pour, encore une fois, peut-être pour faire tomber Theresa May, mais pas pour qui pourrait la remplacer. Et du coup, il n'est pas certain qu'elle ne puisse pas encore une fois de plus, tenir. Ouais. Il faut dire aussi que le job est tellement impossible à l'heure actuelle qu'il faudrait vraiment avoir être vraiment un martyr, avoir des envies d'être martyr pour se présenter et devenir Premier ministre en ce moment, parce que c'est vraiment une situation impossible.
Eh bien, justement, job impossible, situation impossible. Et comment est-ce qu'on comprend aujourd'hui, ou vous comprenez la position de Theresa May? Je veux dire par là, est-ce qu'on ne l'a pas mal jugée en disant c'est une mauvaise négociatrice? Ou plutôt, qu'est-ce qu'elle veut sauver? Est-ce que c'est le Parti conservateur ou, disons, la stabilité du pays et la confiance de la population envers les élites?
Oui, je pense pas qu'elle ait très bien mené cette négociation depuis le début. Hein. Elle a fait des séries d'erreurs, comme de lancer trop tôt l'article 50 du traité de Lisbonne, de commencer des négociations sans avoir une idée claire de où elle voulait aller, de s'enfermer dans ces fameuses lignes rouges où elle expliquait que le Royaume-Uni sortirait du marché unique et de l'union douanière, alors qu'on voit aujourd'hui qu'elle a été obligée de céder là-dessus. Donc il y a eu des erreurs dans la négociation qui me semblent importantes, et une espèce d'amateurisme de la part des négociateurs britanniques depuis 2 ans qui les ont certainement desservis.
Ouais.
Mais il y a aussi, et ça il faut lui en être conscient, Theresa May était depuis le début dans une situation impossible. Hein. Elle était elle-même en faveur du Remain à l'origine, et elle savait très bien qu'elle avait un parti totalement divisé sur le sens finalement de ce vote du référendum. Ils ont voté pour sortir, mais sans jamais se demander sous quelle forme et ce qu'ils voudraient pour l'avenir. Et donc, sa préoccupation, ça a été effectivement d'essayer de garder son parti à peu près uni derrière elle, ce qui était impossible.
Et on en revient à ce choix de David Cameron, dont on aura reparlé dans l'histoire. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces explications. Jusqu'au prochain vote du Parlement britannique. Merci, Pauline Schnapper, professeure de civilisation britannique à Paris 3. Merci.